franceinter.fr.
Élever un enfant a plus d'impact sur nos défenses immunitaires qu'un vaccin ou qu'une gastro-entérite. Les secrets de la plasticité immunitaire, donc à la une de la science aujourd'hui, avec des chercheurs anglais et belges qui ont suivi pendant 3 ans 670 patients âgés de 2 à 80 ans pour tenter donc de comprendre ces variations de nos défenses naturelles. Les résultats publiés mardi dans la revue Nature sont surprenants. Et pour les présenter, nous sommes en ligne avec vous depuis l'Angleterre. Alexandre Bignon, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes immunologiste, chercheur à l'Institut Babraham de Cambridge.
C'est ça.
Et dans ce studio.
Babraham Institute.
Voilà.
Oui, et dans ce Cambridge.
Merci. Et dans ce studio, notre médecin généraliste Dominique Dupagne.
Bonjour Mathieu.
Hello Dominique. Alexandre Bignon, c'est la première fois que ce genre d'étude est menée avec autant de finesse. Quel était le but de ces travaux exactement?
Alors, les buts de ces travaux, c'était d'étudier sur une large cohorte d'individus sains, comme vous l'avez rappelé, sur une période de 3 ans, les facteurs non génétiques qui étaient capables de moduler notre système immunitaire.
Et comment fait-on pour suivre ces facteurs précisément?
Alors, en fait, c'est l'équipe, là, pour le coup, en Belgique, qui a, pendant des périodes de 6 mois, qui a prélevé un prélèvement sanguin, et ils ont regardé 54 paramètres qui caractérisent notre système immunitaire.
Dominique Dupagne, beaucoup de choses dans cette étude. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé à la lecture des résultats?
Confirmation de choses qu'on savait déjà un petit peu, c'est que les deux grands piliers de l'immunité, c'est d'une part la diversité. On voit qu'on est différent et qu'il faut habiter ensemble pour se rapprocher. C'est ce qui fait le plus de rapprochement. Et que d'autre part, on est extrêmement adaptable sur le plan immunitaire, puisque en permanence, on s'adapte à son milieu pour pouvoir anticiper les problèmes.
Alexandre Bignon, ça veut dire que là, vous êtes vraiment sorti de l'organisme pour voir comment l'environnement pouvait justement influencer notre système immunitaire?
Tout à fait, tout à fait. Quand on est scientifique et quand on observe des phénomènes biologiques, on est toujours tenté de se demander qu'est-ce qui est de la part de la génétique, qu'est-ce que la part de l'environnement. Et donc là, on s'est vraiment rendu compte, quand on comparait le système immunitaire de deux individus, et que ces deux individus étaient en couple, cohabitaient et avaient au moins un enfant, eh bien on avait une convergence de leur système immunitaire vers un point d'équilibre. Pour faire plus simple, notre système immunitaire est plus proche du système immunitaire de notre conjoint que d'un individu lambda.
C'est formidable ça, non, de le penser,
oui,
en tout
formidable.
Cas. Mais c'est très beau, je trouve, qu'on puisse s'influencer à ce point.
On ne partage pas que de l'amour.
Mais c'est ça, c'est du biologique aussi, c'est du
exactement.
Concret.
Exactement.
Est-ce qu'on sait, Alexandre Bignon, si c'est bon pour la santé ou pas, au final?
Alors, dans cette étude, justement, il n'y a aucun jugement de valeur. C'est-à-dire que ce n'est ni positif ni négatif, c'est un fait que l'on a observé, mais il n'y a aucun jugement de valeur. Il y a des paramètres qui peuvent être bons et d'autres mauvais.
On peut imaginer les raisons de ce rapprochement immunitaire dont on vit ensemble avec un enfant?
Eh bien, tout à fait. Alors déjà, ce qu'a montré cette étude, le point important, c'est vraiment d'abord le rôle de l'environnement. Hein, l'environnement, et en particulier l'environnement que l'on partage avec son conjoint, qui influence de façon significative notre système immunitaire. Alors l'environnement, c'est au sens large, c'est-à-dire qu'on a notre habitation, notre mode de vie, notre mode d'alimentation, et puis l'enfant. L'enfant qui, dans cette trilogie familiale parent-enfant, eh bien il faut le considérer comme un vecteur qui va être capable de pouvoir moduler de façon similaire le système immunitaire de ses parents. Et dans ce contexte, en fait, une hypothèse fédératrice, au vu de la littérature scientifique actuelle, eh bien, c'est le partage du microbiote entre ces différents individus, parce qu'il y a plusieurs études qui ont montré, notamment une très jolie dans Science, que des membres d'une même famille avaient un microbiote qui était similaire. Alors, pour vos auditeurs, le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes qui colonisent soit notre tractus digestif ou encore la peau. Et en fait, on sait qu'il y a un dialogue qui se fait entre ce microbiote et le système immunitaire. Et il est tentant de spéculer que ce rapprochement du microbiote entre les individus pourrait influencer notre système immunitaire.
Dominique Dupagne.
C'est forcément bien, parce que c'est ce qui a permis aux primates de survivre depuis plusieurs millions d'années. Donc en fait, le vivant qu'on connaît, c'est le vivant qui a survécu. Donc il a été validé finalement par des millions d'années d'évolution. Moi, ce qui me frappe au-delà du problème purement médical, c'est qu'en fait, les deux piliers dont je vous parlais, diversité et adaptabilité, c'est pas très fréquent dans notre organisation sociale. C'est-à-dire qu'on essaye toujours d'uniformiser les choses, les gens doivent être toujours pareils. Alors ce qui permet de survivre, c'est d'être divers. Et on sait par exemple qu'il y a des gens qui sont naturellement résistants au sida. Et le vivant a survécu parce que souvent, face à une crise infectieuse, il y avait des mutants, des gens un peu différents qui résistaient. Puis l'autre chose, c'est que si un jour le système immunitaire, par le passé, a fonctionné comme fonctionne le militaire, c'est-à-dire prévoir ses armes en fonction des guerres passées, et il n'y a pas eu de ligne Maginot parce que ce vivant-là n'a pas survécu. Le vivant qui survit, c'est un vivant qui est capable, très rapidement, après avoir mis des lignes, des défenses de première ligne qui, elles, sont non spécifiques, qui est capable de fabriquer le plus vite possible une défense spécifique face à l'infection. Et quand on compare ça avec notre réalisation sociale, où on veut toujours planifier, organiser à l'avance et ne pas tenir compte de la réalité du terrain, ce qui est en fait l'environnement, eh bien c'est un peu surprenant de voir qu'on emploie des méthodes dans nos structures gouvernantes, par exemple, qui sont totalement opposées à ce qui a marché dans le vivant. Moi, ça me fascine beaucoup.
Oui, donc il faudrait plus s'inspirer en tout cas de l'évolution dans le vivant. Et Alain Fischer, une réaction à ce que dit Dominique Dupagne?
Alors, à la réaction à sa dernière phrase, je suis pas tout à fait d'accord parce que ça nous entraîne sur le terrain de la sociobiologie, qui à mon avis est un terrain glissant et je ne suis pas sûr qu'il faille dériver strictement de toutes les hypothèses et la réalité, l'évolution et de Darwin, la façon dont notre société doit fonctionner. Mais c'est un sujet qui nous écarte du débat d'aujourd'hui. Si je reviens à l'étude de M. Bignon que j'ai pas lu encore, je pense que ça s'inscrit dans un courant actuel qui est tout à fait intéressant de l'étude du système immunitaire, non pas de façon analytique en étudiant le fonction de telle ou telle molécule, ce qui reste extrêmement important, mais d'essayer d'appréhender globalement le système immunitaire d'une certaine façon, essayer de définir pour l'homme, si on réfléchit un tout petit peu médecine, une espèce d'état de santé de notre système immunitaire, ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Donc je pense que ce type de travaux est très important parce qu'il contribue à cela et il affinera la définition d'espèce d'état d'équilibre de notre système immunitaire dont ensuite les perturbations pathologiques viennent provoquer telle ou telle maladie et où la génétique intervient un peu plus.
Oui, alors justement, Alexandre Bignon, il y a quelque chose que j'aimerais bien comprendre dans cette influence mutuelle finalement de nos systèmes immunitaires au sein d'un couple, par exemple. Oui. Est-ce que c'est pour, au fond, renforcer justement notre système immunitaire ou est-ce que dans certains cas, au contraire, ça peut l'affaiblir? Parce que là, à vous entendre, on a l'impression que c'est très positif au fond.
En fait, une fois de plus, je ne veux pas donner de côté positif ou négatif. Si vous êtes en bonne santé, un individu sain, votre système immunitaire va être capable de se défendre de toute façon. Et puis, si il est soumis à une agression, et quelque part, il va avoir aussi gardé en mémoire cette agression. Mmh. Donc, ça peut être parfois positif et parfois ça peut être négatif. Par exemple, on sait que les gens qui sont infectés par le CMV, c'est un certain type de virus, ben ça va avoir une influence sur le vieillissement du système immunitaire. Et là, pour le coup, c'est pas forcément agréable.
Donc ça peut être dans les deux sens, effectivement.
Ça peut être dans les deux sens, tout à fait.
Axel, dernière question.
Mais oui, vous venez de le dire, un des critères très importants qu'on voit dans votre étude, c'est le vieillissement. C'est quelque chose qui influence énormément notre système immunitaire.
Oui, dans notre étude, ça a été vraiment le facteur majeur qui modifie le système immunitaire et là, pour le coup, qui provoque un déclin du système immunitaire, en particulier certaines populations cellulaires. Et ça, c'est ce qui peut expliquer qu'au cours du vieillissement, eh bien, on a un déclin de la qualité de la réponse immunitaire. Et ça peut expliquer, par exemple, pourquoi les personnes âgées sont plus susceptibles aux infections ou alors qu'elles répondent moins bien aux vaccins. Et nous, c'est cette thématique, ici à Cambridge, sous la direction du docteur Michel Linterman, que nous travaillons. Essayons de comprendre qu'est-ce qui se passe pour le système immunitaire au cours du vieillissement et comment on peut l'améliorer.
Oui. Dominique, le mot de la fin?
Oui, attention, parce que le vieillissement, il y a l'adaptation et puis il y a la mémoire. Parce que pendant la grande épidémie de grippe de 2009, en fait, les seuls qui ont survécu, c'était les vieux. Enfin, les seuls qui ont survécu, pardon. Oui. C'est une très mauvaise formule. Ceux qui ont été
c'est
le moins touchés,
déjà
ceux
dans leur
dont
histoire
on s'attendait,
étaient confrontés.
Ceux dont on s'attendait, ce qui est une hécatombe, c'était les personnes âgées. Or, ils ont été totalement, enfin, quasiment totalement protégés parce qu'ils avaient une vieille immunité vis-à-vis de ce virus, ou en tout cas parente. Mm-hmm. Et donc, la personne âgée a du mal à créer de nouvelles réponse immunitaire, mais elle a une mémoire qui peut être extrêmement solide.
Oui, mais attention, parce que les personnes âgées de cette époque et de maintenant, c'est pas le même âge, probablement. Ce que j'appelle personnes âgées, c'est maintenant c'est supérieur à 65 ans. Et là, vraiment, on a un déficit de la qualité de la réponse immunitaire. On a une mémoire, mais on a un système immunitaire qui est capable de moins bien fonctionner.
Bon, en tout cas, c'est passionnant. Étude donc publiée mardi. On aimerait aller plus loin pour pouvoir explorer ça. Est-ce qu'on peut appeler ça l'épigénétique du système immunitaire, Alexandre Bignon?
Non, pas du tout. Non, c'est vraiment
parce qu'on est en dehors...
l'environnement du système immunitaire.
Oui, parce qu'on est en dehors des gènes, vous le disiez tout à l'heure. Mais
oui,
comme
exactement.
Comme on est au-delà et à l'extérieur, il faut proposer un autre nom. Alors, merci beaucoup à vous pour ces explications. Merci Dominique Dupagne. À très bientôt. Et Axel,
À demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique. Mal se brosser les dents augmenterait les risques d'AVC. Des chercheurs américains avaient déjà isolé des bactéries responsables des caries dans la salive de plus de la moitié des patients accidentés. Ils montrent maintenant que le véritable problème est un gène de ces bactéries, le CNM, qui leur permet de perforer la barrière hémato-encéphalique qui sépare le sang du cerveau pour provoquer des saignements favorisant les AVC. Ce gène pourrait, selon les auteurs, être aussi impliqué dans les maladies d'Alzheimer et de Parkinson. Les hommes de Néandertal ont fricoté avec nos ancêtres humains bien plus tôt qu'on ne l'imaginait. C'est l'ADN d'un os d'orteil d'une femelle néandertalienne qui le prouve. La rencontre entre nos deux espèces a eu lieu il y a 100 000 ans entre le Nil et la péninsule arabique. Cette lignée humaine qui a copulé avec les hommes de Néandertal n'a pas perduré, mais des traces de notre génome ont bien été détectées sur l'os et étudiées. La seconde rencontre entre nos deux espèces a eu lieu au cours de migrations il y a 50 000 ans dans le Moyen-Orient. Et puis pour finir, un timelapse admirable de 6 minutes qui montre comment le Soleil a évolué ces 6 dernières années. Vendredi, les chercheurs de la NASA dévoilaient des images étonnantes d'un satellite qui gravite en orbite autour de la couronne solaire et qui le photographie toutes les 12 secondes. Les images capturées à l'extrême de l'ultraviolet nous montrent une fois assemblées la rotation du Soleil sur son axe et ses milliers d'éruptions quotidiennes. Cette très belle vidéo est en ligne sur le Twitter et la page Facebook de La Tête au Carré.